Bonjour à tous. Il sera jugé à partir de lundi et pendant 6 semaines. Patrick Balkany, le maire de Levallois-Perret, va devoir répondre de corruption et de fraude fiscale. Mais des affaires à Levallois, il y en a eu de nombreuses sur lesquelles des magistrats se sont cassés les dents. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jacques.
Alors avec vous, nous allons examiner donc ces autres enquêtes judiciaires, celles qui ont marqué la commune, sans pour autant faire la une de l'actualité.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Tout ça, c'est des affabulations. Est-ce que j'ai l'air de me sentir mal ? Pose la question. Vous savez, quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. Maintenant, qu'ils fassent leur enquête, ça durera, mais moi, j'ai rien à me reprocher.
Voilà, c'était Patrick Balkany alors qu'il vient d'être mis en examen. On est le 21 octobre 2014. La suite, on la connaît lundi prochain. Donc, il comparaîtra avec son épouse aux côtés de 4 autres prévenus devant le tribunal correctionnel de Paris. Ce procès, c'est une étape en fait de plus dans une vie politique qui a largement été marquée par les affaires. Mais des affaires, et c'est ce qu'on va voir maintenant, Sylvain Tronchet, dont la plupart n'ont jamais abouti.
Oui, et c'est pour cela que ce procès est très attendu, notamment par l'association Anticor, qui sera partie civile. Ce dossier revêt un caractère exemplaire, selon son vice-président Eric Halt.
L'affaire Balkany dit beaucoup de choses sur le clientélisme, la difficulté de la justice à s'emparer de ce type de sujet, même sur le financement des partis politiques. Ce procès Balkany est emblématique d'une culture de l'impunité, de l'irresponsabilité depuis 35 ans.
Une culture de l'irresponsabilité, qu'est-ce qu'il entend par là ?
Eh bien, il veut parler de toutes ces affaires dans lesquelles le nom de Patrick Balkany a été cité, voire dans lesquelles il a été mis en examen, mais qui n'ont débouché sur rien. Alors, évidemment, il y a la présomption d'innocence, c'est vrai, mais on va aussi constater que parfois, la justice n'a pas poussé très loin ses investigations. Parfois, les procédures se sont enlisées. Et parfois, elle n'a pas du tout enquêté, malgré certaines présomptions.
Par exemple ?
Eh bien, par exemple, il y a presque 30 ans, en 1990, dans la première grande affaire où le nom du maire de Levallois est cité, l'affaire de la Cogedim, du nom d'un promoteur immobilier. Le Canard Enchaîné révèle que le couple Balkany aurait acheté à très bon prix un appartement à la Cogedim en même temps qu'il lui accordait des droits à construire à Levallois.
Et il n'y a pas eu d'enquête ?
Non, en revanche, il y aura une enquête sur une affaire de fausses factures établie par les sous-traitants d'un chantier de Levallois, la ZAC Frontsen. Ces fausses factures, elles sont payées par la Cogedim, mais une question ne sera jamais résolue, comme l'explique ce reportage de France 3 à l'époque.
Mais où est passé l'argent ? Michel Mauer, le PDG de la Cogedim, a expliqué que son entreprise n'a rien à se reprocher dans cette affaire. Quant au député maire RPR de Levallois, il rejette toute responsabilité.
Sur la ZAC du Front de Seine, il y a aujourd'hui 1000 sous-traitants dont nous ne sommes, nous, responsables ni de près ni de loin.
Ouais, Patrick Balkany se défend. Et alors, Sylvain, résultat des courses ?
Eh bien, alors que les enquêteurs pensent que ces fausses factures servent au financement de la droite, du RPR, ni Patrick Balkany, ni aucun autre homme politique ne sera inquiété dans cette affaire. Ce sont les chefs d'entreprise qui vont être condamnés.
Oui, ce sera donc la première affaire embarrassante, disons, pour le maire de Levallois. Mais il y en aura une autre.
Oui, une autre qui va le menacer beaucoup plus sérieusement, 4 ans plus tard. C'est l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine. C'est toujours une affaire de fausses factures, payées par l'office, qui permettent de sortir de l'argent, qui sert au financement du RPR. Or, qui est le président de l'office HLM des Hauts-de-Seine ? Patrick Balkany.
Et qu'est-ce qui va se passer ?
Eh bien, l'enquête est longue, elle s'enlise, notamment parce que Didier Schuller, le bras droit de Patrick Balkany à l'office HLM, part en cavale aux Caraïbes, mais aussi parce que c'est une affaire sensible. Qui est le président du département des Hauts-de-Seine ? Charles Pasqua. Et qui est le ministre de l'Intérieur ? Charles Pasqua. L'un des enquêteurs de l'époque, l'ancien policier Jean-Paul Philippe, m'a expliqué qu'il était difficile d'enquêter dans ces conditions.
Il n'est pas forcément évident, nous on a connu ces difficultés en 95 lorsque le ministre de l'Intérieur était une de nos cibles. C'est difficile d'enquêter contre le ministre qui donne les ordres à ses propres enquêteurs. Donc il y a ce contexte-là qui est parfaitement connu de tout le monde. Et le cas des HM, était ce cas-là.
Ouais, ce cas-là, comme il dit Sylvain, il débouche sur quoi ?
Eh bien sur un procès, mais 10 ans plus tard, sur le banc des prévenus, on retrouve Patrick Balkany et Didier Schuller. Et Patrick Balkany est relaxé. C'est Didier Schuller qui est condamné. Je l'ai rencontré. Lui estime qu'il a joué le rôle de fusible.
Il était président. J'étais directeur. Je n'avais aucun pouvoir. Je veux dire que juridiquement, dans les offices publics d'HLM, c'est le président qui est le patron et qui décide de tout, y compris des attributions de logement et de tous les marchés publics, etc. Bon, et j'ai été condamné, il est passé au travers. C'était Patrick Balkany, Jacques Chirac était président de la République, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Voilà, je veux dire que le rôle du fusible est toujours très utile.
Ouais, de fusible, autrement dit, il pense avoir payé pour d'autres.
En tout cas, la justice a estimé qu'elle ne pouvait pas condamner Patrick Balkany, faute d'éléments suffisants. Et puis, lors du procès, Didier Schuller n'a pas chargé Patrick Balkany, un peu comme s'il espérait qu'en échange de son relatif silence, il puisse obtenir quelque chose en retour.
Et ce quelque chose, ce serait quoi ?
Un renvoi d'ascenseur dont je vous parlerai plus tard. Mais ce dossier n'est pas totalement terminé pour Patrick Balkany parce que dans leurs recherches, les enquêteurs sont tombés sur autre chose.
Et sur quoi ?
Eh bien, ils découvrent qu'en 1990, Patrick Balkany a revendu les parts de la société de prêt-à-porter de son père pour 31 millions de francs. Or, cette société ne valait plus rien à l'époque. Donc, les policiers pensent que cette vente aurait pu cacher autre chose, comme me l'a raconté l'ancien policier Jean-Paul Philippe.
La société Hélène & Soiretti, c'était une société qui périclitait, qui était même largement déficitaire. Cette société avait été rachetée par des fonds qui étaient basés au Liechtenstein. Enfin, je ne sais pas, racheter quelque chose qui vaut rien, ça n'a pas de sens. Bon, il y a X manières de blanchir des fonds, hein, mais une des manières, c'est on fait un espèce de rachat plus ou moins fictif qui va permettre de rapatrier ces fonds sur le territoire national. C'est un processus connu, et là, c'est ce qu'on commençait à démontrer. Il est vrai que nous n'avons pas vraiment compris pourquoi ce dossier n'avait pas prospéré.
N'avait pas prospéré, c'est-à-dire ?
Il y aura un non-lieu finalement, notamment parce que la Suisse et le Liechtenstein à l'époque ne coopèrent pas avec la France. Le justiciable Patrick Balkany n'est pas inquiété, mais le coup est passé très près. Les enquêteurs ont notamment repéré la villa du couple à Saint-Martin, mais à l'époque, ils n'arrivent pas à établir formellement qu'elle leur appartient.
Ouais, donc à ce moment-là, les choses s'arrangent plutôt pour lui.
Oui, au plan judiciaire. Mais au plan politique, en revanche, ça se gâte. Au municipal de 1995, Patrick Balkany est battu par un jeune inconnu, Olivier de Chazeau, et les affaires semblent avoir pesé dans le choix des électeurs, comme en témoigne C'est le Valoisien, dans le journal de France 2 à l'époque.
Allez s'y attendre.
Pourquoi ?
Bah parce qu'on en a marre.
Vous en avez marre de quoi ?
Bah, la magouille, ça suffit, il faut tourner la page.
Je trouve que M. Balkany a fait des choses très bien, mais je trouve qu'il avait, si on veut dire ça vulgairement, pris un peu la grosse tête.
Ouais, donc c'est plus une histoire d'amour entre le maire et ses électeurs.
Oui, d'autant que les affaires ne s'arrêtent pas là. En novembre 1995, 5 mois après la défaite de Patrick Balkany, la PJ débarque à la mairie. Elle saisit les contrats de travail de 3 employés municipaux. Depuis presque 10 ans, ils travaillent au service exclusif du couple Balkany. Ils amènent les enfants à l'école, ils entretiennent leur logement et jouent même les maîtres d'hôtel lors des dîners du couple.
Et l'enquête, elle donne quoi ?
Eh bien, Patrick et Isabelle Balkany sont condamnés à de la prison avec sursis, une amende et 2 ans d'inéligibilité. Patrick Balkany doit en plus rembourser 500 000 euros à la ville, les salaires des employés de maison.
Ouais, ce qui est quand même une peine assez lourde pour l'époque.
Oui, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il a échappé à d'autres affaires. Parce que dans le même temps, la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France a elle aussi débarqué à la mairie de Levallois. Et elle examine les comptes de plusieurs associations financées par la mairie. J'ai retrouvé la magistrate qui a effectué ces contrôles. Elle a accepté de m'en parler, à la condition qu'on ne donne pas son nom. Écoutez ce qu'elle m'a raconté.
On avait affaire à des associations recevant de grosses subventions de la mairie et à la tête desquelles le maire, Patrick Balkany, avait placé des proches qui lui étaient redevables et qui se sont particulièrement servis. Et donc on avait tout un système de détournement massif de fonds publics.
Des détournements massifs de fonds publics, qu'est-ce qu'elle entend par là ?
Eh bien par exemple, elle va découvrir qu'une partie des cotisations payées par les sportifs à Levallois sont détournées vers un compte bancaire occulte sur lequel ont transité 7 millions de francs et de grosses sommes en liquide ont disparu. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que mettre au jour ces détournements a été plutôt compliqué. Écoutez la suite du récit de cette magistrate.
Ce système mis en place peut s'apparenter par un certain nombre d'aspects à un système mafieux. Des gens qui vous sont redevables, un système de détournement de fonds, avec l'omerta qui va avec, et j'allais dire aussi protection, je ne sais pas comment qualifier la chose, mais en tout cas qu'elle n'a pas été ma stupéfaction quand j'ai demandé aux services fiscaux à consulter les dossiers fiscaux d'un certain nombre de personnes parce que je soupçonnais qu'elles bénéficiaient de sommes indûment détournées. Quelle n'a pas été ma stupéfaction, disais-je, de découvrir que tous les dossiers fiscaux auxquels j'avais demandé à avoir accès et auxquels normalement tout magistrat des comptes a accès dans l'exercice de ses fonctions dès lors qu'il le demande, avaient malencontreusement disparu.
Ah oui, ces documents avaient disparu.
Oui, et surtout, elle raconte que tout cela se déroule dans une ambiance pesante. Elle a le sentiment qu'à l'intérieur même de la mairie, des fonctionnaires ne font rien pour lui faciliter le travail.
Patrick Balkany n'était plus maire de Levallois-Perret. En revanche, un certain nombre de fidèles de Patrick Balkany étaient encore à des postes clés et détenaient l'ensemble du système, ce qui rendait les choses un peu compliquées, au point que des menaces ont été proférées à mon encontre et j'ai été placée sous surveillance et protection policière pendant toute la durée du contrôle.
Une protection policière, mais pourquoi ?
Eh bien, on m'a confirmé effectivement qu'elle avait été menacée, victime de mystérieux cambriolages et que sa voiture avait été dégradée alors qu'elle venait travailler à Levallois. Alors, aucun lien n'a été établi avec sa mission, mais le parquet a jugé que tout cela était quand même suffisamment inquiétant pour qu'on la place sous protection.
Bon, et au final, tout ça, Sylvain, ça débouche sur quoi ?
Eh bien, 5 rapports accablants qui vont être publiés et transmis au parquet de Nanterre. Au moins 2 enquêtes ont été ouvertes, mais l'une va déboucher sur un non-lieu et l'autre, mystère. Au parquet de Nanterre, on m'a expliqué qu'on ne l'avait pas retrouvé.
Et à ce moment-là, Patrick Balkany, lui, fait quoi ?
Eh bien, il est en pleine traversée du désert. Enfin, du désert, il part aux Antilles, sur l'île de Saint-Martin, où il va notamment racheter une radio. Il aura d'ailleurs quelques soucis avec le CSA pour utilisation non autorisée d'une fréquence. Mais bon, il se fait oublier pour mieux revenir et il décide de se représenter en 2001 au municipal à Levallois et il gagne.
Et comment ça s'explique ça ?
Eh bien, il a bénéficié de plusieurs facteurs. D'abord, son successeur ne passe pas auprès des Levalloisiens. Autant Patrick Balkany est truculent, communicant, autant Olivier de Chazot est discret. Et manque de charisme, ce qu'il reconnaît avec le recul, mais pour lui, ce n'est pas la seule explication.
Peut-être que j'ai pas fait suffisamment preuve d'empathie vis-à-vis des électeurs, de la population, comme lui peut le faire. C'est ma personnalité, je fais avec ce que j'avais et avec mes convictions. Probablement aussi, j'ai eu le mauvais rôle. On a joué un rôle d'administrateur judiciaire d'une mairie en état de faillite. En 95, quand j'arrive, moi, je suis convoqué par le préfet. Et le préfet me dit « Monsieur le maire, vous êtes dans le rouge, donc je vous laisse une dizaine de jours pour revenir me voir, savoir si vous souhaitez que nous prenions la décision de placer la ville sous tutelle ou est-ce que vous assumez et vous engagez un plan de redressement. » Donc on a augmenté les impôts de manière forte la première année. Et même si on a diminué la dette, on n'a pas été remercié.
On n'a pas été remercié, mais il y aurait d'autres raisons à ce retour gagnant de Patrick Balkany.
Oui, et notamment le fait qu'il avait toujours à l'intérieur de la mairie des gens qui travaillaient probablement pour lui en sous-main. À commencer par le plus fidèle d'entre eux, Jean-Pierre Aubry. J'ai demandé à Sébastien Blanc, un ancien salarié de la ville, très critique aujourd'hui sur la gestion Balkany, de me parler de ce personnage qu'il connaît.
C'est l'homme de main, l'homme à tout faire de Patrick Balkany. Patrick Balkany s'est toujours entouré de gens qui étaient là pour faire les mauvais coups. Didier Choulard a été condamné pour ça. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Aubry qui est dans le collimateur de la justice également. C'est un drôle de personnage très controversé qui est présent partout, dans le sport, dans l'immobilier. Il est probablement redevable parce que son évolution, il la doit aussi à Patrick Balkany. Sa carrière professionnelle, il la doit à Patrick Balkany. Il a reçu des mains d'Isabelle Balkany, sur demande d'Isabelle Balkany, une légion d'honneur. Voilà. C'est un personnage clé.
Oui, un personnage clé à la mairie, mais un personnage clé aussi dans le procès qui devrait s'ouvrir lundi prochain.
Aujourd'hui, il est accusé d'avoir acheté un palais à Marrakech pour le compte de Patrick Balkany. Et malgré les documents, les témoignages qui semblent le désigner, il n'a rien dit devant le juge Renaud Van Ruinbeck. Écoutez cet extrait d'interrogatoire auquel nous avons eu accès et que nous avons fait lire.
Qui est le propriétaire de cette maison ?
Je ne le sais pas.
Avez-vous rendu service à quelqu'un dans cette affaire ?
J'assume et j'assumerai les conséquences de cette affaire.
Nous vous reposons la question. Avez-vous rendu service à quelqu'un dans cette affaire ?
J'assumerai personnellement les conséquences de cette affaire. Non, je n'ai pas rendu service.
Quel a été votre rôle dans cette affaire ?
Je ne le sais pas.
Vous le savez. Pourquoi ne le dites-vous pas ?
Je ne sais pas.
Votre identité a-t-elle été usurpée ?
Je ne le sais pas. À ce stade-là, je ne peux le dire.
Avez-vous seulement un début d'explication ?
Pas encore, il y aura des explications de texte.
Quand ?
Il y en aura une.
Oui, effectivement, pas très loquace, hein, Jean-Pierre Aubry.
Non, Jean-Pierre Aubry est indéfectiblement lié à Patrick Balkany. Hein. Et pourtant, quand Olivier de Chazeau prend la mairie en 1995, il le laisse à son poste. Et avec le recul, il pense que c'était une erreur.
Je ne souhaitais pas le garder. Paradoxalement, un certain nombre d'élus de mon équipe, qui trouvaient sympathique, probablement, on souhaitait qu'on le maintienne dans ses fonctions, encadré, etc. Mais ils avaient confiance. Bon, on est humain, donc évidemment, il était sympathique. Enfin, j'avais pas de raison humainement de lui en vouloir. Et ça peut vous paraître étonnant, il a été loyal également à mon endroit. En tout cas, à la politique que nous avons menée.
Est-ce qu'il n'a pas fait partie des gens qui, d'une certaine façon, de l'intérieur, ont préparé le retour de Patrick
Balkany ? Probablement, probablement. C'est tout le paradoxe de la loyauté. Il avait une double loyauté. Il avait une loyauté de service et une loyauté politique. Bon, c'est mon erreur.
C'est mon erreur et cette erreur, donc, elle aurait coûté son siège à Olivier de Chazeau.
Ce serait en tout cas un des éléments qui permettent à Patrick Balkany de redevenir maire de Levallois et de se moquer des juges à la télévision sur France 3.
C'est les Français sont d'abord beaucoup plus intelligents qu'on ne le dit, et ils sont surtout pleins de bon sens. Et c'est pas parce que vous avez deux ou trois juges un peu coincés qui ont décidé que ça c'était pas moral ce que j'avais fait, que ça va les faire changer d'avis. Ce qu'ils veulent, c'est un bon maire, une bonne municipalité qui s'occupe d'eux.
Bien alors, après avoir vu quelles étaient les premières affaires qui ont marqué le Valois-Perret, voyons maintenant comment Patrick Balkany la gère, cette commune. Une commune qui, on l'a dit, hein, Sylvain Tronchet, est très endettée.
Oui, c'est une constante hein, dans la gestion Balkany. La dette est vertigineuse. Le Valois est depuis des années la ville la plus endettée de France et de loin, presque 6000 euros de dette par habitant.
Bon, cela dit, si on est capable de la rembourser, cette dette, en quoi c'est un problème ?
Alors, c'est vrai hein, que le Valois est une ville riche, hein, avec beaucoup de sièges sociaux d'entreprises, des habitants plutôt aisés. Mais la dette est quand même très lourde. Et puis, elle a aussi peut-être conduit l'équipe municipale à faire quelques acrobaties financières entre 2007 et 2012, comme cela avait été révélé dans un rapport de la Chambre régionale des comptes qu'avait découvert avec étonnement, Dominique Tiget, il est le secrétaire général de l'Association des contribuables de Levallois.
Le rapport de la Chambre des comptes, en fait, dit voilà, les comptes sont insincères. Et nous avons trois exercices budgétaires, donc trois années budgétaires de la ville, dont les chiffres sont faux. Et si on les cumule, on arrive à un écart de 117 millions d'euros. Donc 117 millions d'euros qui disparaissent comme par magie. Et là, on n'a pas eu, au-delà de ce rapport, ni l'intervention du préfet, qui apparemment semblait acquise. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'intervention du préfet ? Est-ce que c'est une mise sous tutelle ? On n'a pas, nous, le sentiment aujourd'hui que l'État s'est emparé de ce sujet-là.
Donc l'État aurait laissé faire ?
Oui, la Cour des comptes l'a écrit noir sur blanc.
Mais pourquoi la ville est aussi endettée, Sylvain ?
Eh bien, notamment parce que c'est une ville à très haut niveau de service. Les crèches, le conservatoire de musique, un énorme club omnisport, le plus gros en France. Et puis des structures étonnantes comme une agence de voyage municipale, des services qui sont souvent gérés via des associations financées par la ville qui deviennent de véritables boîtes noires, m'a expliqué Anne Jennifer, une élue d'opposition PS à Levallois.
La gestion déléguée de certaines politiques publiques à des associations paramunicipales permet une totale opacité, puisque dans ces associations qui gèrent le sport, la culture, les loisirs, la communication de la ville, ne siègent au conseil d'administration que des élus de la majorité municipale, aucun élu d'opposition, et donc nous ne connaissons pas les embauches, les affectations d'argent qui est en fait de l'argent public et qui devient de l'argent sur lequel on n'a plus aucun contrôle dès qu'il est entré dans ces associations. Et donc, lorsque la ville de Levallois veut masquer certaines politiques, certains achats, certains salaires, elle peut le faire par le biais de ses associations et la majorité ne s'en prive pas.
Attendez, masquer certains achats ou certains salaires, c'est-à-dire ?
Eh bien, par exemple, on a découvert dans ces associations des salaires très confortables versés à des proches, des primes en liquide ou des emplois fictifs. Et puis, l'une de ces associations a un rôle essentiel. Elle s'appelle Levallois Communication. L'ancien salarié de la ville, Sébastien Blanc, connaît bien ce volet. Il travaillait précisément dans ce secteur.
La communication, c'est l'enjeu majeur. Les moyens sont extrêmement forts parce que, à contrario d'autres villes, il y a un service municipal et il y a une association. Une association dont les budgets sont faramineux parce que c'était 2,5 millions d'euros chaque année sur la partie associative et ses 40 fonctionnaires et assimilés fonctionnaires qui sont au service de la communication. Ce qui est particulièrement démesurée pour cette ville, avec un support municipal qui faisait à une époque 80 pages, où on vous explique qu'on est dans la meilleure ville du monde, la plus merveilleuse, et qu'on a ce cadre de vie grâce au maire et sa première adjointe.
Ouais, j'entends bien ce qui est dit, Sylvain, mais beaucoup de villes font ça, non ?
Oui, mais là, les méthodes sont quand même un peu limites, hein. Par exemple, la ville était critiquée pour sa dette. Elle a donc créé un site internet qui vantait au contraire la gestion de ses finances. Et sur ce site, on pouvait lire que Levallois n'avait pas contracté d'emprunts toxiques. Or, c'était faux. Il y avait bien des emprunts toxiques dans la dette.
Ouais, et puis ce qu'il faut noter aussi, Sylvain, c'est qu'à cette communication municipale dont on vient de parler, s'ajoute une communication plus politique cette fois-ci.
Oui, d'après ses adversaires, Patrick Balkany est en campagne électorale permanente. Pour financer son activité politique, il a donc créé son micro-parti, le RPL, le Rassemblement pour Levallois. Le RPL a reçu 240 000 euros de gros chèques entre 2010 et 2014, et j'ai pu consulter les noms de ces généreux donateurs.
Et vous avez trouvé qui ?
Eh bien, quasi exclusivement des chefs d'entreprise qui ont obtenu par ailleurs des marchés publics avec la ville de Levallois, des dirigeants du bâtiment ou de sociétés de nettoyage, par exemple.
Ce qui n'est pas interdit d'ailleurs, Sylvain.
Non, mais il y a quand même des coïncidences troublantes. Comme par exemple, quand tout l'état-major de la CEPUR, c'est la société qui nettoie les rues de Levallois, cinq cadres font chacun un chèque de 1500 euros au RPL à quelques jours d'intervalle, quelques mois après avoir obtenu un important marché à Levallois. Alors, j'ai demandé à la CEPUR si c'était là un hasard. C'est leur avocat qui m'a répondu en me disant qu'il était absurde de penser qu'il y aurait pu y avoir un quelconque lien de cause à effet.
Bon, quoi qu'il en soit, Sylvain, cette façon de gérer la ville, elle paye politiquement, puisqu'après 2001, Patrick Balkany a toujours été réélu.
Oui, depuis cette date, hein, les Levalloisiens l'ont élu 4 fois maire et 3 fois député. Et il y a une raison, d'ailleurs, si l'on en croit Didier Schuller.
Je pense que c'est un très grand maire. Il faut reconnaître. Alors, il a endetté énormément la ville. Ça, c'est, il faut pas l'oublier. Mais bon, les gens s'en apercevront un jour. Par contre, il est extrêmement attentif au quotidien. C'est-à-dire que c'est un type, quand il sort le matin, s'il voit des déjections canines, il prend son téléphone et il appelle le directeur des services techniques. Il a mis de la pierre de taille sur les HLM, il a fait des jardins publics magnifiques, les écoles sont parfaites, c'est Balkany ça.
Et ce souci du détail peut même aller très loin, m'a raconté Dominique Tiget de l'Association des contribuables de Levallois.
En fait, on a l'impression d'être materné, mais de bout en bout. On reçoit quand même, les parents d'élèves reçoivent des courriers pour dire de mettre des cagoules pour leurs enfants, parce qu'il va faire froid le lendemain, dire qu'on en est là quand même. On est dans un rapport très infantilisant.
Ouais, très infantilisant pour lui peut-être, mais apparemment ça plaît.
Oui, beaucoup d'habitants plébiscitent la gestion Balkany. Un géographe spécialiste de l'urbanisme que j'ai rencontré s'en est aperçu en 2013, lorsqu'il a réalisé une étude sur la banlieue parisienne. Laurent Chalard a interrogé des habitants des différentes communes de la Petite Couronne et il avait été étonné par les résultats de ces entretiens.
Ce qui m'avait surpris dans ce travail, c'était de voir que parmi les communes qui étaient plébiscitées par les habitants d'Île-de-France en banlieue, il y avait Levallois-Perret, parce qu'au premier abord, c'est pas du tout la commune à laquelle on pensait. Ces gens, ils disaient qu'ils n'avaient pas l'impression d'être en banlieue, ils avaient l'impression d'être tout simplement dans un sorte de 21e arrondissement parisien. Ils avaient des services d'une très bonne qualité et aussi, ils avaient une qualité de vie, une animation, une sécurité, hein, ne pas l'oublier, qui ne retrouvait pas ailleurs. Donc en fait, vous aviez plusieurs facteurs qui expliquaient pourquoi la population trouvait cette commune plutôt attractive.
Oui, attractive et plus particulièrement d'ailleurs pour deux catégories d'électeurs.
Oui, les parents de jeunes enfants, on l'a entendu, et les personnes âgées. Tous les plus de 60 ans reçoivent un cadeau à Noël, ils sont invités une fois par an au Lido ou sur les bateaux mouches. Peu après la dernière réélection de Patrick Balkany, j'avais rencontré deux retraités, Dominique et Michel, dans les rues de Levallois.
On n'a pas à se plaindre, l'espace vert, il y en a partout, la ville est propre, la sécurité, qu'est-ce que vous voulez de plus ?
Pour les enfants, le sport, l'école, tout, il y a vraiment tout. Bon,
On parle d'une ville endettée la plus de France, mais vous voyez, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez, des bacs comme ça, des, comme des fleurs, il y en a des milliers comme ça, vous voyez. Bon, ça coûte une fortune, mais on voit où va moins l'argent, on sait qu'elle va. Non, mais on ne peut pas dire mal d'un maire comme Balkany. Je l'adore.
Ces affaires judiciaires, je sais pas moi, je vois pas où est le problème.
On s'en fout.
Ouais, donc les affaires n'ont pas d'incidence sur sa popularité.
Non, ni sur sa carrière politique d'ailleurs. Patrick Balkany est toujours membre des Républicains. Écoutez ce que disait du couple Balkany-Laurent Wauquiez il y a 1 an et demi, interrogé par les caméras de l'émission Quotidien lors d'un meeting dans les Hauts-de-Seine.
Moi, je condamne pas. Voilà. Et je le dis, ce sont des amis, ce sont des gens que je connais. Je n'aime pas qu'on jette en pâture comme ça.
Il y a tant de fois où les affaires n'ont abouti à rien.
Ouais, tant de fois dit. Donc, Laurent Wauquiez. Et si vous le voulez bien, on va s'arrêter là un instant, mais surtout restez avec nous. La suite de l'histoire de Patrick Balkany et des affaires, c'est juste après ça. On est sympa, hein. En avant-première, on vient de vous offrir Hello Sunshine, une belle ballade extraite du nouvel album de Bruce Springsteen qui sortira le 14 juin prochain.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Et on va maintenant revenir à des choses plus prosaïques, Sylvain Tronchet. On a vu donc que Patrick Balkany a été finalement très peu inquiété par la justice jusqu'ici. Maintenant, c'est vrai que ces derniers temps, le ciel s'est sérieusement assombri.
Oui, puisque le procès qui s'ouvre lundi sera très périlleux, sans présager de son issue. On peut dire qu'il y a des charges qui pèsent sur le couple Balkany. C'est un énorme dossier et certains éléments remontent à plus de 20 ans.
Mais pourquoi ça a pris autant de temps ?
La justice est toujours lente, mais on peut se demander aussi si, pendant des années, Patrick Balkany n'a pas bénéficié d'une certaine réticence à enquêter sur ce type d'affaires. C'est en tout cas l'avis d'Éric Halt, le vice-président d'Anticor.
La justice, jusqu'à une période récente, n'était pas spécialement courageuse et audacieuse pour entrer dans ces affaires politiquement sensibles. Il y a eu, pendant les années 90, quelques juges qui se sont distingués et qui ont instruit des affaires importantes. À partir de 2004, où la loi réaffirme le pouvoir hiérarchique du garde des Sceaux sur les procureurs, il n'y a quasiment plus rien.
Oui, plus rien quasiment. Mais est-ce qu'on peut pour autant en déduire qu'il aurait, Patrick Balkany, bénéficié de protection ?
Alors, ce qu'on sait, c'est que Patrick Balkany est très proche de Nicolas Sarkozy. Et Arnaud de Courson, son opposant historique de droite à Levallois, pense que cela a pu jouer en sa faveur.
Il y a eu 10 ans, après sa réélection en 2001 jusqu'à l'élection de Hollande, pendant laquelle beaucoup ont hésité à aller regarder ou enquêter. Que ça soit un juge, un inspecteur des impôts, se dire, voilà, aller chercher des choses sur Patrick Balkany, qui est très lié d'abord de 2002 à 2007 au ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, puis après au président de la République, ils sont très liés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont hésité avant d'aller faire une enquête. Et donc, je pense que c'est plutôt, non pas de la protection, mais pendant ces 10 ans, Patrick Balkany a dû être un peu intouchable.
Bon, intouchable peut-être, Sylvain, mais encore faut-il le démontrer ?
Alors, il n'y a aucune preuve, hein. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'entre 2005 et 2012, alors qu'il y avait notamment des dérives pointées entre autres par la Cour des comptes, il n'y a eu aucune procédure judiciaire. Et depuis 2012, 6 enquêtes ont été ouvertes, dans lesquelles le nom des Balkany est cité. Il y a l'affaire qui va être jugée à partir de lundi, mais 5 autres sont toujours en cours. On peut aussi remarquer que le fisc, avec qui il avait conclu une transaction en 2008, ne semble plus dans les mêmes dispositions aujourd'hui et le poursuit pour avoir évité de payer l'ISF.
Ouais, dont acte Sylvain. Maintenant, s'il se retrouve aujourd'hui dans cette situation, c'est peut-être aussi parce qu'il a commis une erreur.
Oui, et ça se passe en 2012. Didier Schuller envisage un retour en politique à Clichy, juste à côté de Levallois, là où il rêvait de se faire élire dans les années 90. Le journaliste Jean-Charles Deniaud, auteur d'un livre qui vient de paraître, « Balkany l'impuni », nous raconte la suite.
Didier Schuller dîne en 2012 avec Balkany dans sa somptueuse salle à manger au sous-sol de la mairie et il y a une sorte de gentleman agreement entre les deux, c'est-à-dire que Balkany s'engage à ne mettre personne en face de Schuller pour les municipales de 2014. Et donc Schuller, pour lui, il va prendre la mairie de Clichy, c'est son rêve. Février 2013, il apprend que Balkany lui met dans les pattes Rémi Museau, qui était son adjoint, et là, c'est la trahison. Il n'aurait jamais dû faire ça, Balkany. Balkany laissait Schuller prendre la mairie de Clichy. Schuller n'aurait rien dit. Parce qu'il avait toujours en tête qu'un jour je reviendrai, si je me tais. Et là, il a été trahi. Et tout part de là.
Ouais, tout part de là parce qu'on l'a vu au tout début de votre enquête, Sylvain. Didier Schuller espérait un renvoi d'ascenseur après l'affaire des HLM.
Et c'est pour ça qu'une fois battu au municipal, Didier Schuller va voir le juge Renaud Van Rumbeck. Il lui raconte que Patrick Balkany posséderait des villas à l'étranger, il apporte même des documents, bref, il décide de ne plus se taire.
J'ai été au cœur de beaucoup de secrets pendant de très très longues années. J'ai fermé ma gueule pendant 20 ans. J'ai payé ma dette lourdement, puisque j'ai tout perdu, ma carrière administrative, ma carrière politique, mes problèmes familiaux relativement lourds aussi derrière. Donc je pense avoir vraiment, j'ai donné pour une équipe de l'époque, c'est-à-dire Charles Pasqua, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire Patrick Balkany, etc. Bon, j'ai refait ma vie sans eux. Mais j'avais quand même un contentieux, entre guillemets, qui a été ravivé par l'attitude absolument inimaginable de Balkany au moment où je me suis présenté à Clichy. C'est vrai que ça m'a quand même un tout petit peu énervé.
Ouais, un peu énervé, c'est un euphémisme.
Oui, ça s'appelle régler ses comptes et le reste va se régler devant le tribunal correctionnel de Paris.
Et on va donc en rester là pour ce qui nous concerne, Sylvain. Maintenant, il y a quand même deux personnages qu'on aurait bien aimé entendre dans votre enquête. C'est Patrick Balkany lui-même et son bras droit, Jean-Pierre Aubry.
Je les ai contactés. Patrick Balkany m'a répondu qu'il ne souhaitait pas s'exprimer. Jean-Pierre Aubry ne m'a pas répondu. Je les ai contactés. Ils m'ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas s'exprimer.
Bon, dont acte. Merci en tout cas, Sylvain. Alors, je précise que votre enquête, on peut la réécouter ou la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires, comme chaque semaine, sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou sur Twitter, Investigation RF.